Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans la suite de nos previews 2022 de la saison sur TD Actu, la saison NFL. Bien sûr, à mes côtés aujourd'hui, Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Lucas Vola, bonjour.
Bonjour à tous.
C'était très sobre.
Oui, c'est bien.
Aujourd'hui, messieurs, nous allons nous donc parler des Carolina Panthers. C'est aujourd'hui le jour où nous parlons des Carolina Panthers, car ceci est une blague que vous comprendrez demain en écoutant l'émission sur les Bears. C'est pas mal, ça fait du teasing, ça te donne envie d'écouter ça du lendemain. L'an dernier, 5 victoires, 12 défaites. Évidemment, l'arrivée de Baker Mayfield est l'événement de l'année. Arrive aussi Donta Foreman, Austin Corbett, Matthew Onidis, Corey Littleton, Xavier Woods ou Johnny Ecker, notamment son parti Cam Newton, Matt Parr, Paradis, Hassan Reddick, Stephon Gilmore ou AJ Bouye. Ils ont drafté Ikem Ekwonu sur la ligne offensive, Matt Corral au poste de quarterback notamment. Je me permets d'être un peu plus personnel pour commencer. Dans une ville, il y a des événements marquants. La tête de Greg quand les Browns ont choisi Baker Mayfield en haut de la draft, par exemple, pour moi, ça se place très haut. Je peux dire aux gens, j'y étais. J'ai vu Greg faire « Oh !» Je me rappelle, tu avais fait un truc comme ça. Et maintenant, on est quoi donc 4 ans après, Baker Mayfield et Sam Darnold, choisis deux positions plus loin, sont réunis.
C'est vrai.
Pour le meilleur et probablement le pire.
C'est vrai, les deux candidats de la draft, les deux candidats au premier choix de la draft 2018.
Si je exactement. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on les retrouve ensemble. Faut commencer par ça quand même. Est-ce qu'il y a match, Lucas? Est-ce qu'il y a vraiment un match entre Baker Mayfield et Sam Darnold?
Non. Non, pour moi, il n'y a pas de match, malgré ce qui en ressort apparemment du camp d'entraînement des Panthers, en tout cas dans les déclarations. Non, pour moi, il n'y a pas de match, et ce n'est pas à dire que Baker Mayfield est un quarterback incroyable, parce que oui, s'il n'y a pas de match, pour moi, il n'y a pas de match du côté de Baker Mayfield, je pense que tout le monde l'a compris.
Oui.
Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est un quarterback incroyable qui va devenir le franchise quarterback des Panthers. On a vu ses défauts l'année dernière et les saisons précédentes, on sait ce qu'il vaut, mais il reste quand même un niveau moyen au-dessus de Sam Darnold qui globalement n'a pas montré grand-chose depuis qu'il a été drafté, tout simplement, que ce soit à New York ou quand il est arrivé à Carolina. Il n'a pas montré grand-chose, Baker Mayfield a montré un petit peu plus et je pense que l'idée c'est d'avoir un quarterback avec un niveau moyen le plus élevé possible quand on ne peut pas avoir un top quarterback, et Baker Mayfield peut assurer ce rôle-là, je pense.
17 touchdowns, 13 interceptions la saison dernière pour Baker Mayfield, qui joue un petit peu blessé hein, de mémoire pendant toute la saison dernière. Greg, est-ce que tu y crois du coup? Puisque donc à l'époque, ça avait été le choc de la sélection de Baker Mayfield en 1. Finalement, puisque ça n'a pas été le franchise quarterback.
Non, mais alors, entendons-nous bien. Le choc, parce qu'initialement, il n'était pas spécialement attendu en numéro 1. Après, moi, j'aimais beaucoup Baker Mayfield à sa sortie d'Oklahoma. C'était un quarterback très talentueux. Il a montré lors de ses premières années du côté de Cleveland qui avait quelque chose. Après, malheureusement, on s'est vite rendu. Enfin, le soufflet est assez vite retombé. Alors, le but du jeu, c'est pas de prendre fait et cause à chaque fois pour des cas désespérés, mais on a vu que le soufflet était aussi retombé parce qu'autour de lui, malheureusement, il n'y avait pas grand chose qui avait l'air de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui fonctionneront du côté de Carolina. Mais en tout cas, les Panthers étaient suffisamment désespérés dans une année où Matt Rhule joue sa place pour miser sur un quarterback potentiellement titulaire. Baker Mayfield était suffisamment désespéré pour avoir besoin d'un nouveau point de chute et potentiellement se relancer, en plus dans une conférence nationale qui me paraît quand même un peu plus accessible que la conférence américaine. Donc, ça fait un accord de bons procédés. Est-ce que ça peut suffire à leur faire franchir un palier supplémentaire ? Peut-être. Pour moi, Baker Mayfield, de ce qu'il a montré en NFL jusque-là, c'est un peu meilleur que Sam Darnold. Parce que je le disais, on a quelques petites références qui commencent à remonter maintenant, alors que Sam Darnold, on n'en a pas vraiment beaucoup.
Non.
Voilà, donc c'est déjà ça. L'avantage qu'il aura peut-être, c'est le fait d'être peut-être bien protégé. Parce que mine de rien, l'arrivée d'Aike Mekwonu, conjuguée à la présence déjà de Taylor Moton en tackle, il faut protéger sur l'intérieur aussi, hein, mais en tout cas, ça fait partie des beaux duos de tackle qu'on peut trouver au niveau de la Ligue. Ce duo-là, en tout cas, bien sûr, avec Kwonu, il faut qu'il confirme. Mais en tout cas, sur le papier, c'est quand même intéressant. Et je trouve qu'il y a eu des ajouts intéressants également sur l'intérieur de la ligne, avec notamment les arrivées de Austin Corbett et de Riley Bosman.
On va en parler justement de cette ligne offensive. J'aime beaucoup l'idée que tu répètes souvent le soufflet est retombé. Est-ce que les gens savent, d'après vous, au fur et à mesure que l'expression s'est ancrée, qu'on parle vraiment d'un plat gastronomique français qui est très difficile à garder gonflé ?
J'aurais pu dire que Charlotte pourrait être aux fraises aussi.
Exactement. C'est une autre question. Lucas, qu'est-ce qui fait que le soufflet va regonfler un petit peu ? Est-ce que c'est justement cette ligne offensive ? Greg en parlait, Bradley Bozeman, Austin Corbett, Ike Mekwonu, Taylor Moton, il y a des bonnes choses quand même en attaque.
Oui, il y a des bonnes choses sur cette ligne offensive. Corbett était un titulaire du côté des Rams. En effet, le tackle gauche vient à un besoin criant du côté des Panthers l'année dernière. Et en effet, cette ligne peut vraiment être solide et plus solide qu'elle n'était l'année dernière. Et puis surtout, on en parlait un petit peu dans les previews précédentes, hier ou demain, mais il y a des équipes où il manque de talent. Il y a des équipes et on sait que en NFL c'est important. Là pour le coup, je trouve qu'intrinsèquement il y a du talent dans cette équipe-là. Il y a des joueurs de talent. Alors il y a McCaffrey forcément, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais il y a DJ Moore, il y a Robbie Anderson qui est quand même un bon receveur numéro 2. En défense, Brian Burns est très bon depuis qu'il est arrivé en NFL. Il y a Shaq Thompson, il y a des joueurs, il y a Chin. Il y a des joueurs quand même dans cette équipe-là sur lesquels on peut s'appuyer et un petit peu à toutes les lignes. Et du coup, ce sont les motifs d'espoir pour moi. En effet, il y a des trous. Et on en parlera aussi, mais il y a des choses sur lesquelles le coaching staff peut s'appuyer et faire progresser autour de ces joueurs-là, rajouter des pièces un petit peu et faire monter le niveau de cette équipe. Ouais.
C'est vrai que cette attaque, ça a de l'allure. Tu disais DJ Moore, Ruby Anderson, Christian McCaffrey sur les skill players. A priori, il n'y a pas de quoi se plaindre. Sur la défense, il y a un énorme pass rush. Lucas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du gros matos dans cette équipe ?
Oui, il y a du gros matos. Il y a du gros matos, en effet. En effet, on a fait. On est les premiers et pas les derniers à faire cette blague-là.
Non.
Qui reviendra certainement.
Je vais pas mentir, je cherchais un son de batterie, mais j'ai pas eu le temps de le trouver, le temps de faire ma blague. Non, mais alors, sérieusement, ce pass rush, il est quand même costaud. Et ça aussi, c'est un motif d'espoir, Lucas.
Oui, clairement. Alors, certes, Reddick est parti. Il va falloir le remplacer. Et ça peut être justement Gross Matos qui prend encore plus de place sur cette ligne. Mais Burns a été très bon l'année dernière. Et en effet, il y a un front seven globalement avec Shaq Thompson qui peut être aussi important derrière ça en capitaine d'équipe, capitaine de la défense peut-être. Donc oui, il y a une très bonne défense qui n'a pas pris beaucoup de yards l'année dernière. Alors, c'était aussi parce qu'il y avait pas mal de turnovers et que du coup, l'équipe défendait très près de sa end zone. Donc, ils ont pris quand même beaucoup de touchdowns. Mais en tout cas, la défense n'est pas inquiétante. Ça ne fait pas partie des meilleures défenses, je pense, de la NFL actuellement, mais elle n'est pas inquiétante.
Avec un peu de retard. Voilà. Grégory, cette défense, c'est intéressant quand même.
Non, mais
deuxième
ça,
défense sur les yards dans l'an dernier.
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lucas, mais c'est vrai que globalement, je trouve que c'est un groupe qui est extrêmement cohérent. J'allais dire, ce qui peut les faire perdre, malheureusement, on va penser que je m'acharne, mais malheureusement, Matt Rhule, c'est difficile d'occulter le rôle peut-être un petit peu délicat qu'il occupe depuis qu'il est coach de Carolina. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours les bonnes décisions qui sont prises et on attend peut-être un coach avec peut-être un peu plus d'ambition. Je ne vais pas dire forcément partir sur du Brandon Staley ou ce genre de... C'est pas Brandon Staley d'ailleurs, c'est comment il s'appelle le coach
Sean McVay.
Non, je pensais au head coach des Chargers.
Si, si.
Oui, exactement. Brandon Staley.
D'accord, ouais. J'avais un doute sur le prénom, autant pour moi. Et oui, non, voilà, sans partir sur ce côté hyper culotté, mais oui, peut-être un peu plus d'assurance dans ses prises de décision, et je pense que ce groupe en a besoin. Plus globalement, et moi je l'ai souvent dit, ces dernières années, notamment les choix de draft, alors après, ça, c'est peut-être moi qui m'attarde dessus, mais peut-être que le niveau n'est peut-être pas aussi intéressant que ce que moi je pressens. Mais voilà, je trouve qu'il y a des joueurs encore avec vraiment du gros potentiel à développer des deux côtés du ballon. Et c'est là aussi où je trouve que le coaching staff a son importance à jouer, que ce soit Matt Rhule, je le disais dans cette prise de décision, et puis le retour de Ben McAdoo aussi en coordinateur offensif, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, il me semble, depuis son expérience manquée de head coach des Giants. Donc voilà, on attend de voir s'il est capable d'apporter vraiment quelque chose de plus au cahier de jeu offensif que n'arrivait clairement pas à apporter Joe Brady du côté de Charlotte.
En tout cas, il n'a plus d'excuses, Matt Rhule. Ça, c'est sûr et certain. Après, oui, il y a Baker Mayfield, Matt Rhule, et puis la blessure annuelle de Christian McCaffrey, non, Lucas?
Oui, certainement. C'est le facteur X. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle directement.
Bah, c'est parti. Allez.
C'est clairement. Je pense que là, tout le monde pouvait se douter que ce serait le facteur X. J'ai du mal à imaginer que ce soit quelque chose d'autre. C'est le meilleur joueur de l'équipe quand il est au top. Je ne vois pas trop de joueurs qui pourraient être meilleurs que lui. Le problème, c'est qu'il est de moins en moins. Il se blesse beaucoup parce que c'est un joueur, quand il joue à 100%, il est très bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas de match ou de saison comme pourrait en avoir d'autres il est un peu moins bon. Quand il est au top, il est incroyable. Il fait partie des meilleurs running backs de la ligue. Le problème, c'est que c'est depuis quelques saisons, il ne l'est plus et il est de moins en moins. Et on commence même à se dire, on ne peut même plus compter dessus. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, bon, il a eu une blessure, comme beaucoup de running backs, comme beaucoup de joueurs, il est passé à côté d'une saison parce qu'il se blessait. Bon, ben, mais là, maintenant, il y a presque plus de chances dans les statistiques. Enfin, en tout cas, il y a plus de chances qu'il soit out que qu'il soit présent. Donc, c'est difficile de compter sur lui. Maintenant, quand il est là, il change complètement le visage de cette attaque et de l'équipe entière.
10 matchs en 2 ans. 3 victoires, 2 défaites avec lui l'an dernier. Donc, ils sont dans le positif quand il est là. Et évidemment, 2 victoires, 10 défaites sans lui. Greg, tu avais aussi Christian McCaffrey en Factor X ?
Je l'avais aussi. Pour changer un peu, je peux proposer un autre nom. Mais c'est vrai que McCaffrey, c'est forcément un incontournable pour les motifs qu'évoquait Lucas. L'autre Factor X qui est un peu moins un facteur X que McCaffrey, parce que ça déterminera moins la saison de Carolina, mais en tout cas, ça permettra sans doute aux Panthers de gagner quelques matchs. Je dirais peut-être l'importance d'un Jesse Horn, par exemple, sur le poste de cornerback. On a vu que Carolina avait dû notamment faire une croix sur Stephon Gilmore, notamment, hein, qu'ils n'ont pas pu conserver avec le départ du cornerback chez les Colts. Donc, c'était le projet. Il avait été drafté numéro 8, je crois, en 2021, lors de la draft. Il est appelé à être le corner numéro 1 et à être complémentaire, on va dire, d'un pass rush qui, on le disait tout à l'heure, peut être intimidant sur le papier. Son bon rendement et sa capacité à être vraiment un shutdown corner, comme on aime bien dire, ça peut en tout cas faire de Carolina peut-être une top équipe de la ligue à suivre contre la passe. Et ce ne sera pas une mince affaire, par exemple, quand tu joues contre Tampa, voire contre New Orleans, dont on espère peut-être un meilleur rendement aérien au cours de cette saison 2022.
On passe au calendrier, ça commencera face aux Browns, probablement sur de John Watson. Les Giants, Saints, Cardinals, 49ers, Rams, Buccaneers, Falcons, Cincinnati Bengals, Falcons, Baltimore Ravens, Broncos, repos en semaine 13. Ensuite, ça termine avec Seahawks, Steelers, Lions, Buccaneers et Saints. Après, le problème, c'est, je pense que pour évaluer combien vous voulez leur mettre de victoire, c'est qu'il faut évaluer le moment où vous évaluez que Christian McCaffrey va se péter.
Ça peut être au training camp.
Ça peut être au training camp.
Ouais. Non, mais c'est
au moment où on enregistre, il va bien.
Pour l'instant, tout va bien.
Après, il y a plein de matchs qui sont prenables. Hein.
J'ai du mal à aller au-dessus de 6 pour l'instant pour Carolina.
Ah, tiens, ok. Ouais.
Mais c'est vraiment, mais encore une fois, je le répète, hein, c'est une équipe qui, je pense, peut rester dans beaucoup de matchs, mais malheureusement, qui en perd beaucoup de très, très peu.
Autant je sens que nous étions en désaccord demain et que tu es très optimiste demain, mais moi, je serais plus optimiste, ce serait l'inverse aujourd'hui. Je vais être optimiste.
À combien tu es optimiste?
Oui, c'est surtout la question.
Je pourrais monter à 8.
Ah ouais.
8-9.
Ah ouais.
Puisqu'il y a plus de 8-8, malheureusement.
Vendeur de rêve.
Bah, écoute, Giants, Falcons deux fois, Seattle, Détroit, Ah oui, vache, j'en ai que 5-6 là tout de suite.
Alors, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit.
Bon, on va dire 7 ou 8.
Non, mais en soi, c'est pas farfelu, je te rejoins.
Non, 7 ou 8, je pense que
c'est pas ce que je dis. Moi, je prends vraiment un scénario où, comme tu dis, malheureusement, il y a cette problématique où on n'est pas sûr que le running back titulaire va rester à 100% tout au long de la saison. Je ne le souhaite pas, bien sûr, pour Carolina, mais ça reste bien entendu une probabilité vu que c'est ce qu'on voit ces deux dernières années et que les Panthers n'ont pas vraiment remédié à cette problématique pendant l'intersaison. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je dis. Je pense que c'est une équipe qui peut rester dans les matchs, notamment grâce à sa défense, mais qui va peut-être avoir des problèmes. Encore une fois, Baker Mayfield, j'ai été un peu mesuré en début d'émission, mais il s'appuyait énormément sur Nick Chubb du côté de Cleveland. Là, ça va être un gros souci de ne pas avoir un jeu au sol suffisamment complémentaire pour lui retirer cette pression des épaules.
Bah, si Christian McCaffrey va bien.
Si Christian McCaffrey va bien, c'est sûr. Après, voilà, si on part par là, alors voilà, avec Christian McCaffrey, 8, sans Christian McCaffrey, 6. Voilà, je te rejoins.
Très bien. Okay. Lucas,
voilà. Moi, je me tais depuis tout à l'heure parce que j'ai écrit deux choses quand même sur mes notes. J'ai écrit 17 quand même.
Vrai optimisme.
Oui, ça doit être le scénario où Christian McCaffrey joue les 17 matchs. Allez, 16 matchs, il en prend un de repos parce qu'il joue les playoffs. Non, mais.
C'est bon, ça.
Non, mais parce qu'en effet, je vois du talent dans cette équipe. Après, je rejoins Greg. C'est le coaching staff qui me rassure pas parce qu'il n'est pas rassurant. J'ai l'impression que ça panique. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'ils sont à 5 victoires. Ça ne progresse pas particulièrement. Le coordinateur offensif a changé. C'est un peu le piston facile. Il a changé parce qu'il s'est fait virer. C'est vrai que Matt Rhule me rassure pas. Après, voilà, il y a du talent et je me dis que pourquoi pas. Mais en même temps, à côté, je me suis quand même noté 7-10 parce que ça m'étonnerait pas non plus, quoi. Donc, allez, entre les deux, je vais dire, vous m'avez peut-être convaincu. 8, allez, 8.
Alors, en tout cas, si tu passes dans le coin, Lucas, je crois comprendre que Christian McCaffrey joue 16 matchs et se repose le 17e parce qu'ils sont en play-off. C'est une énorme cote à Las Vegas.
Ah, c'est grave. Je suis pas blessé, c'est moi qui choisis de pas jouer, les gars.
Ouais.
Parce que sur le 16e match, il y a quand même une petite douleur du côté de l'adducteur et du coup, il faut reposer pour quand même le wild card game.
Ouais, tu joues les Saints en plus en dernière semaine, c'est bien, faut éviter les petits coups un peu vicieux de après coup de sifflet.
Après, bon, on pourrait pas dire, je vous l'ai pas dit.
Bon, on commence enfin à arriver dans des pronostics un peu plus optimistes dans ces fiches. Évidemment, vous avez l'habitude, on parle du plus mauvais bilan pour arriver au meilleur. Donc forcément, les pronostics évoluent généralement un peu dans ce sens-là également. C'est la fin de cette preview des Panthers. Vous retrouverez les Bears, je crois, demain. On remercie tous ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent éventuellement sur Tipeee. Il y a des goodies qui vont arriver. Là, on est en train de vous préparer tout ça. Émission aussi en public au Hard Rock Café Paris le 3 septembre. Les détails et les réservations, ce sera à partir du 16 août sur TD Actu et justement tdactu.com pour le site et les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude, tous les liens sont sur le site de toute façon. Merci beaucoup, messieurs.
On se retrouve. Plaisir.
On se retrouve demain, si je ne m'étouffe pas, pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.